France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient avec Karim Émile Bitard, universitaire, professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, nous nous projetons au Liban. Pour mieux comprendre l'histoire et la fondation de ce pays auquel nous sommes si attachés. Karim, vous intervenez régulièrement sur les ondes de Radio France, à la télévision aussi, pour commenter l'actualité tragique du Levant. Mais si je vous ai convié dans notre rendez-vous dominical, c'est pour prendre le temps long en considération et nous expliquer la nature même de ce que représente la cohabitation libanaise et sa spécificité avec une histoire mêlée par entre autres les christianismes orientaux, l'église maronite bien entendu, mais aussi d'autres confessions. Bonjour Karim.
Bonjour Sébastien de Courtois.
Une première question sur ce que nous appelons le mont Liban. Sa genèse dans les lendemains de l'Empire ottoman, la période du mandat français, et finalement la création d'un pays où le besoin d'un équilibre nécessaire entre peuple et religion participe à la volonté de fonder une nation. Est-ce qu'on peut parler de nation libanaise ?
C'est une question qui se pose aux Libanais depuis déjà 70 ans, sans que nous n'ayons véritablement réussi à y répondre par la positive, ni à écarter totalement cette possibilité de voir un embryon de nation ou une nation s'instaurer. Paradoxalement, c'est dans les années les plus noires de la guerre qu'on a vu émerger une sorte de sentiment de solidarité nationale dans l'épreuve. Et un grand sociologue allemand, Theodor Hanf, avait écrit un livre qui s'appelait « Destruction de l'État, émergence d'une nation ». Mais, comme vous le disiez, tout s'est joué au Liban dans les 2-3 ans qui ont suivi la Première Guerre mondiale. C'était un véritable tournant dans l'histoire du Levant. Et c'est à cette période-là qu'a été proclamé l'État du Grand Liban le 1er septembre 1920 par le général Gouraud à la résidence des Pins. Donc c'était le mandat français. Mais le général Gouraud s'était entouré à sa droite du patriarche maronite Elias Hawayek et à sa gauche de l'imam Mustafa Naja représentant les musulmans libanais et cette célèbre image qui jusqu'à aujourd'hui représente un peu la proclamation de cet état dans ses frontières actuelles. Et ce qui est important de rappeler, c'est que dès cette époque-là, Cette idée libanaise, cette idée de vivre ensemble a été contestée par certains courants chrétiens et par des courants assez larges également chez les musulmans. Et aujourd'hui, avec un siècle de recul, on retrouve ces mêmes tensions entre ceux qui sont attachés à cette idée libanaise, à ce territoire, qui veulent continuer de vivre ensemble, et ceux qui estiment qu'il faudrait plutôt rester dans une sorte de micro-canton communautaire. Déjà, le patriarche Hawayek a été confronté à des rivalités à l'intérieur de sa propre famille. Son propre frère lui disait « Mais pourquoi ne ferions-nous pas un petit état maronite ? Pourquoi faut-il aller construire cette idée, certes sympathique, mais qui sera difficile à préserver ?» Et cet état d'esprit-là revient aujourd'hui chez certains courants dans la communauté chrétienne libanaise, des courants identitaires, ethno-différentialistes. Et aujourd'hui, la survie même de cette idée née en 1920 est menacée.
Alors, vous avez évoqué cette période 1920, donc la période du début du mandat français, qui a duré jusqu'en 1943, jusqu'à l'indépendance, avec ce qui est appelé le pacte national, et qui est toujours la référence institutionnelle du Liban d'aujourd'hui, après la guerre civile, après les accords de Taif, mais il y a toujours cette référence. Et vous avez évoqué deux personnalités qui sont deux personnalités religieuses. Cela veut-il dire que la laïcité est exclue par la fondation même de cet État ?
C'est un peu le grand paradoxe libanais. Même les laïcistes en France, ceux qui avaient mené le combat pour la séparation de l'Église et de l'État, considéraient que la laïcité n'était pas un produit d'exportation, pour reprendre la formule de Gambetta. Donc la France, qui se présentait en porte-drapeau de la laïcité à travers le monde, n'a jamais hésité, ni en Afrique du Nord, ni au Levant, à jouer les minorités les unes contre les autres. Et c'est ce que beaucoup, au Liban, reprochent à la France. Ce n'est pas tant ses valeurs, mais c'est de faire parfois des accommodements avec les réalités sur le terrain et de se retrouver en porte-à-faux avec les porte-valeurs, les valeurs qu'elle prétend défendre en politique intérieure. Et pourquoi cette question est également significative ? Parce que vous avez rappelé que le mandat français prend fin à la Seconde Guerre mondiale, 43 pour l'indépendance et 46 pour le retrait des troupes. Donc les deux dates fondatrices de l'histoire du Liban contemporain, c'était au cœur de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, au moment des grands bouleversements. Et pour comprendre ce qui a poussé le patriarche Hawayek à accepter cette idée du Grand Liban, à porter cette idée au congrès de Versailles, à essayer de convaincre sa propre communauté et les autres communautés, il faut rappeler le grand traumatisme qu'a représenté dans cette partie du monde la Première Guerre mondiale. Pendant longtemps, c'était un passé qui ne passait pas, on ne voulait pas trop en parler. Aujourd'hui, les documents, les archives ont montré que près d'un habitant sur trois du Mont Liban est mort durant la grande famine qui a frappé la région pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est là qu'a commencé la grande vague d'émigration des Libanais vers notamment l'Amérique latine, l'Europe et bien d'autres endroits encore. Donc cette grande famine doit aujourd'hui être prise en considération pour comprendre cette décision de former un Liban dans ses frontières actuelles, donc des frontières historiques du Liban et non pas celles du petit Mont Liban. C'était l'idée d'une viabilité économique. C'était l'idée que si le Liban a subi une telle épreuve, c'est en raison tout d'abord du jeu des puissances en Orient, c'est le fameux blocus ottoman contre le Mont Liban, qui est en grande partie la cause principale de cette famine. Mais il y avait deux autres causes, c'était des catastrophes naturelles, à l'époque c'était une invasion de sauterelles. Et une troisième cause qu'on a souvent passée sous silence, qui est également très importante, c'est l'appât du gain, la spéculation chez une partie des élites de la région qui avaient accaparé les produits de première nécessité pour les revendre à des prix exorbitants. Ça a donné, ça a inspiré l'un des grands romanciers libanais qui a écrit un livre qui s'appelle Le Pain, Toufik Youssef Awad, qui évoquait cette idée qu'il fallait parfois vendre ses résidences familiales pour pouvoir survivre. La triste ironie, c'est que nous retrouvons un siècle après ces mêmes trois facteurs. Il y a toujours ces conflits entre puissances régionales et internationales, ces guerres par procuration, l'invasion de sauterelles de l'époque. Nous avons eu récemment le Covid qui a conduit également à un affaiblissement du mouvement de protestation révolutionnaire. Le Covid a fait office de virus contre-révolutionnaire au Liban. Et nous avons toujours cette même avidité, cette même appât du gain, ce même individualisme forcené chez une partie des élites libanaises qui ont également contribué à l'affaiblissement économique de leur pays. Donc l'idée du Grand Liban était censée répondre à ces défis. Également, c'était l'époque qui suivait les accords de Sykes-Picot de 1916, la déclaration Balfour de 1917. Donc il y avait quand même cette idée que le Liban devait être à contre-courant par rapport à ces tendances à la fragmentation, à la montée des nationalismes ethniques, des particularismes religieux. C'était cette idée que, au-delà de tout ce qui peut les séparer, les communautés de la région ont quand même traversé des histoires qui sont assez similaires. Les uns et les autres ont subi des persécutions, se sont réfugiés au Liban, et que rien ne devait empêcher théoriquement, qu'ils ne parviennent à faire nation, justement, à vivre ensemble. Et cette expérience, qui est aujourd'hui assez fréquemment dénigrée comme étant un exemple d'échec du multiculturalisme, a au contraire montré, pendant de très longues phases de l'histoire, que rien n'empêchait une coexistence pacifique et même une convivialité entre ces communautés, et que très souvent, les affrontements, les tensions, les guerres étaient la conséquence non pas d'une prédisposition naturelle de ces communautés à s'affronter, cette fameuse idée qu'il y a des rivalités ancestrales entre les communautés, mais c'était souvent lié aux interférences extérieures. La France et la Grande-Bretagne se sont affrontées au Levant en 1840, en 1860, tout au long de la période coloniale, et aujourd'hui, ce sont des puissances régionales comme l'Iran et l'Arabie Saoudite qui instrumentalisent, on renoue avec ce phénomène que les sociologues ont appelé la clientélisation des communautés, et c'est le principal obstacle à l'édification d'un État. Car quand bien même il y aurait une volonté de vivre ensemble, elle ne peut être garantie que par un État qui soit suffisamment solide. Et c'est ce qu'avait compris le général de Gaulle quand il a vécu au Liban pendant la période du Levant. Il a dirigé le deuxième bureau et le troisième bureau entre 1929 et 1931. Il a fait un superbe discours à l'université Saint-Joseph, disant à la jeunesse libanaise, vous avez un pays extraordinairement riche, d'une splendeur géographique, une jeunesse ouverte sur le monde, mais il vous incombe aujourd'hui de construire un État, d'insuffler ce sens du service public, du sacrifice, et de mettre de côté l'esprit partisan, les querelles de clochers. Et malheureusement, les élites libanaises et les interférences extérieures libanaises, les interférences extérieures dans les affaires libanaises, n'ont pas permis l'édification de cet État suffisamment solide qui aurait garanti la pérennité de la Liban.
Karim Bitar, nous pourrions aussi évoquer la figure d'un autre militaire, le général Chehab, qui a été président de la République libanaise, je crois, au tournant des années 50-60, et qui, justement, s'inspirait de ce message du général de Gaulle, et qui, lui, a essayé de construire l'État libanais par ses administrations, par des services publics.
C'est un exemple extrêmement important. Le général Fouad Chehab était d'abord le père de l'armée libanaise en 1945 et il a également été entre 1958 et 1964 président de la République libanaise. Le général de Gaulle avait une grande admiration pour lui car Chehab était un homme d'une extraordinaire intégrité.
Chrétien, si je puis me permettre.
Chrétien maronite, issu d'une vieille famille aristocratique maronite. Marié à une Française, très discrète, c'était l'un des rares hommes politiques au Liban qui n'appréciait pas les mondanités, les dîners en ville, les courtisans serviles, qui avait un véritable sens de l'État. De Gaulle l'a aidé à insulariser le Liban des rivalités régionales. À l'époque, c'était la grande rivalité entre le courant nassérien, le nationalisme arabe laïque, et de l'autre côté, les tendances conservatrices pro-saoudiennes et pro-américaines. Et pendant cette période, le Liban a été quelque peu insularisé de la politique des axes et nous avons bâti des institutions qui demeurent jusqu'à aujourd'hui ce qui maintient l'ossature de cet État, l'inspection centrale, des progrès environnementaux, le développement des régions périphériques. Fouad Chehab a été le premier président à s'intéresser à ces régions qui étaient les laissées pour compte à l'époque du Mont Liban. Donc il y a eu une première tentative d'intégrer les populations chiites du sud Liban, les populations du Hakkar, de la Bekaa, etc. Et cette expérience, aujourd'hui, continue d'inspirer les réformateurs au Liban, la société civile, ceux qui ne désespèrent pas de concilier les valeurs libanaises traditionnelles avec la modernité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de la classe politique traditionnelle avait joué le jeu de ces réformes-là. Un leader chrétien comme Pierre Gemayel, à la tête des Kataeb, un leader druze comme Kamal Jumblatt, un leader sunnite comme Rachid Karame, ont compris que si on mettait de côté les petites rivalités partisanes pendant une dizaine d'années, si on s'efforçait d'instituer des institutions, d'instituer un cadre de bâtir un cadre institutionnel pour construire un État, ils en sortiraient tous gagnants. D'autres hommes de la classe politique traditionnelle ont au contraire, dès le début, fait preuve d'une hostilité viscérale envers cette expérience chehabiste, et ils les qualifiaient de façon dédaigneuse de fromagistes, ceux qui ne pensent qu'à se partager le gâteau, à se partager le fromage, à se partager les parts et les prébendes, et qui ne sont pas du tout animés de cet esprit de service public. Donc cette expérience chehabiste a duré environ 10 à 11 ans, et c'est de son écroulement en 1969, avec la signature notamment des accords du Caire, qui faisait perdre au Liban sa souveraineté, qui permettait au mouvement révolutionnaire armé palestinien de prendre les armes sur le territoire libanais et de mener des opérations contre Israël à partir du Liban, c'est venu clore cette période qui s'est ouverte en 58. Il n'en reste pas moins aujourd'hui que cet héritage demeure extrêmement précieux.
Revenons un tout petit peu en arrière sur cette question de ce qu'on appelle le confessionnalisme. Dans quel contexte il s'est fait? Et deux, qui aurait intérêt maintenant à la fin des confessionnalismes? Je me permets cette question parce que le dernier recensement de la population, sans dire de bêtises, remonte à 1932. Quel est ce poids, cette présence des confessions? Et je suis tenté de vous demander aussi quel est le poids des communautés chrétiennes dans le Liban d'aujourd'hui?
Les communautés chrétiennes aujourd'hui sont saisies par une véritable angoisse existentielle et la peur est mauvaise conseillère. Il ne faudrait pas que ces angoisses les conduisent à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, à penser que parce qu'il y a aujourd'hui une dislocation, un système politique dysfonctionnel, c'était l'idée libanaise qui était viciée à la base. Le communautarisme libanais, ce qu'on appelle le confessionnalisme, est un système qui a énormément de défauts, qui a réussi toutefois à empêcher que le Liban ne dérape dans les années 50-60 dans des régimes autoritaires comme il s'en est installé dans la plupart des pays de la région. Précisément parce qu'aucune communauté ne pouvait prétendre s'imposer à toutes les autres. Donc le confessionnalisme est un système qui peut pervertir l'esprit de la démocratie. C'était au départ une idée que certains constitutionnalistes ont mis en avant, d'une démocratie consociative ou d'une démocratie consensuelle. Mais même ceux qui ont porté cette idée disaient « c'est possible à titre transitoire, mais ça ne peut pas être pérennisé car cela va conduire des blocages institutionnels, etc. » Donc cette formule de démocratie consociative était viciée à la base. Elle a quand même permis au Liban de tenir pendant 30-40 ans. Le problème, c'est qu'elle a ensuite été pervertie, que cette démocratie consensuelle est devenue une sorte de vétocratie, une sorte d'oligarchie entre 6 leaders communautaires qui aujourd'hui déterminent le destin de ce pays. Lorsqu'ils sont d'accord pour se partager les postes et les prébendes, tout se passe très bien. Dès lors qu'ils sont en confrontation, le système tout entier se grippe. Et comme la plupart de ces leaders communautaires sont directement protégés ou inféodés à des puissances étrangères, nous retrouvons ce même cercle vicieux, angoisse existentielle des minorités religieuses, qui induit des interférences de puissances étrangères, phénomène de clientélisation des communautés, incapacité de bâtir l'État et donc projection de conflits externes sur une situation interne qui est naturellement propice à les accepter, à les aiguiser, à en fomenter de nouveau. Briser ce cercle vicieux ne peut se faire qu'en édifiant un État sur la base de la citoyenneté, tout en garantissant les droits des communautés. Car pour apaiser ces angoisses existentielles des communautés, la solution ne peut pas être l'importation d'une laïcité à la française, comme certains en ont rêvé. Beaucoup de Libanais étaient très admiratifs du modèle laïque français, car il permettait d'échapper aux assignations à résidence identitaire, il permettait une émancipation de l'individu. Mais quand on voit aujourd'hui les crispations à l'intérieur de la société française, le passage d'une laïcité de 1905 à une laïcité beaucoup plus autoritaire, les Libanais se posent la question. Et il est tout à fait possible de concilier un système fondé sur la citoyenneté avec des garanties données aux communautés, par exemple en instaurant un système bicaméral, c'est ce que prévoyaient les accords de Taif. Au Sénat, les communautés seraient représentées, elles auraient un droit de regard sur les questions régaliennes, les questions de souveraineté, les questions d'identité, ce qui permettrait de déconfessionnaliser la chambre basse et de permettre dans cette chambre basse à de nouvelles élites d'émerger.
Un mot, Karim Bitar, sur la géographie. Nous imaginons les chrétiens vivant entre eux, les sunnites vivant entre eux, les chiites vivant entre eux, mais la réalité libanaise est bien entendu beaucoup plus complexe que ça. Vous avez évoqué le mont Liban, on pourrait parler du Chouf aussi, de la montagne. Cette réalité, cette idée de dislocation n'est tout simplement pas possible physiquement parlant.
C'est exactement ce qui est intéressant dans l'expérience libanaise, c'est l'extraordinaire imbrication des communautés. On a tendance, à partir de la France, de percevoir cette région du monde avec les vieilles lunettes ethnographiques, orientalistes. C'est Maurice Barrès, son enquête au pays du Levant, on va passer une journée chez les Druzes, une journée avec les Maronites, etc. Alors que quand vous vivez au Liban, vous vous rendez compte qu'il est très difficile de distinguer les uns des autres. J'enseigne à l'université Saint-Joseph, donc qui est une université catholique jésuite fondée il y a 150 ans. Nous avons des étudiants de toutes les communautés du pays. Les chrétiens sont majoritaires, mais il y a au moins 35 ou 40% d'étudiants musulmans. Et quand un étudiant ne porte pas un nom très marqué, qu'il ne s'appelle pas Mohamed ou Charbel ou Maroun, les grands noms maronites, j'aurais bien du mal à dire qui est sunnite de Tripoli, qui est maronite du Mont Liban, qui est un chiite du Liban Sud. Donc il y a, du moins dans les classes moyennes et chez les élites, une véritable imbrication. Il n'en reste pas moins que c'est un pays qui demeure très marqué par les conservatismes, que les leaders politiques ont tendance à jouer la politique de la peur, pour maintenir leur position, leurs privilèges, ils ont tendance à jouer sur la peur de l'autre, à monter en épingle les moindres petits incidents. Mais encore une fois, si on étudie la longue durée, les grands conflits libanais n'ont pas été des conflits entre communautés pour des raisons de rivalité religieuse ou dogmatique, c'était quasi systématiquement lié à la situation géopolitique, avec une volonté de puissance étrangère de s'appuyer sur des communautés locales pour avancer leurs intérêts. Si la France a soutenu les Maronites avec Napoléon III, c'était d'un côté parce qu'il y avait des affinités électives, des relations historiques entre la France et les chrétiens du Liban, mais c'était aussi pour contrer l'influence britannique. Les Britanniques s'étaient rapprochés considérablement des Druzes à l'époque. Nous retrouvons ce même phénomène aujourd'hui avec l'Iran souhaitant se poser en protecteur des chiites, et l'Arabie Saoudite voulant rassurer la communauté sunnite libanaise.
Karim Émile Bitar, je vous remercie infiniment d'être venu en ce début d'année jusqu'à notre micro pour évoquer par rapport au Liban ce panorama passionnant. Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poissignon et Benjamin Vignal pour la technique. Nous retrouvons ce dimanche matin le rendez-vous protestant de Soleil.
We all die. Beirut, Mabit Mabit.